Ce matin, je voudrais parler, on est bientôt Noël, je crois, c'est ça, non? Non, on est dans ce week-end de Pentecôte, et je voudrais parler du Saint-Esprit, et on va faire une lecture dans le livre des Actes, chapitre 1er, à partir du verset 1er, un texte que vous connaissez bien, et on va s'arrêter dessus et voir encore la nécessité d'être revêtu de cette puissance d'en haut. Amen. Actes chapitre 1er, verset 1er. Je crois qu'il y a de l'écho. Il nous est dit: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Voilà un texte que peut-être même certains connaissent presque par cœur, un texte que l'on a l'habitude de lire. Et je voudrais, en ce week-end de Pentecôte, m'arrêter sur la Pentecôte et m'arrêter sur l'expérience qu'ont vécu ces hommes, ces femmes à ce moment. Un moment qui, lorsque nous lisons le livre des Actes, va marquer la vie de ses disciples, va marquer la vie de ces hommes et de ces femmes qui étaient présents à ce moment. Mais l'expérience de la Pentecôte n'a pas seulement marqué les premiers chrétiens de l'Église, mais elle a aussi marqué plusieurs centaines de millions de chrétiens dans le monde, et elle est encore valable aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous le croyez? Qui croit que le baptême, que ce qu'ils ont vécu à la Pentecôte est encore vivable aujourd'hui? Amen. Nous voulons vraiment proclamer que nous avons besoin de cette Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, il nous est dit, les 12, les disciples de Jésus sont rassemblés dans la chambre haute avec une centaine d'autres croyants, et ils vont se retrouver là dans ce lieu pendant plusieurs jours, pendant 10 jours, et ils vont prier, ils vont attendre ce que Jésus leur avait promis. Et alors qu'ils sont là dans l'attente, alors qu'ils sont là en train de prier et de persévérer, acte 2 nous dit tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Suite à cette expérience, ces hommes et ces femmes ont vu leur vie, je vais dire de cette manière, complètement transformée. Leur façon de faire, leur façon de penser, leur façon d'agir, leur façon de leurs habitudes, tout a été je veux dire de cette manière chamboulé par cet ouragan divin qui est venu à ce moment. Et la question que je voudrais nous poser, c'est qui peut ce matin dire mais moi j'en ai pas besoin. Qui pourrait se dispenser d'être renouvelé régulièrement dans la vie de l'esprit? La Pentecôte n'est pas une fête de souvenirs. Elle n'est pas une fête acquise et plus particulièrement acquise à un moment donné, voilà, ce jour-là. Mais au contraire, la Pentecôte est une fête toujours actuelle aujourd'hui, tous les jours. On n'a pas besoin d'attendre fin mai, début juin pour vivre cela. Nous devons rechercher cela. Et l'apôtre Paul le dira lui-même dans ses différentes épîtres. Entretenez-vous, soyez constamment remplis. Nous avons besoin de nous entretenir dans la vie de l'esprit. Nous avons besoin d'aller de progrès en progrès dans ce domaine. Amen. Nous avons besoin d'être renouvelés tous ensemble. Nous avons besoin de connaître tout à nouveau le vent de Dieu, ce vent qui passe au milieu de nous, comme de ce vent du Saint-Esprit qui vient balayer ce lieu, comme nous pouvons le chanter. Il y a ce chant qui dit que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient visités par le vent de ton esprit, mais que ce ne soit pas juste des paroles, mais que ce soit quelque chose qui soit encore vécu aujourd'hui. Qui soit vécu. Lorsque les disciples se sont retournés de la montagne des Oliviers jusqu'à la chambre haute, ils sont allés parce que Jésus leur avait dit d'attendre. Ils ont pas, une fois que Jésus est parti, les disciples se sont pas dispersés, mais ils ont tous obéi, et on va le voir à la fin. Ils ont tous obéi et ils ont tous attendu, et ils étaient tous là dans cette attente de recevoir. Il y avait dans leur cœur ce désir de recevoir ce baptême, de recevoir cette puissance. Alors, je voudrais dans un premier temps dire qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit ? Dans la Bible, nous trouvons plusieurs termes qui expriment finalement la même chose. On trouve le baptême dans le Saint-Esprit, on trouve aussi revêtement de puissance, onction du Père, plénitude de l'Esprit. Bon, je ne les ai pas tous notés, mais on trouve toutes ces termes, ces expressions qui veulent simplement décrire la même expérience. La même expérience, et chacune d'elles va nous apporter un éclaircissement sur ce qu'est être baptisé dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, tout d'abord, on l'a lu, c'est un don. Recevoir le baptême dans le Saint-Esprit revient à recevoir un don promis de la part de Dieu pour faire de nous des témoins puissants, pour faire de nous des témoins efficaces. Un don, comme son nom l'indique, cela c'est quelque chose que l'on ne mérite pas. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert parce qu'on a bien fait. L'apôtre Pierre dira, une fois qu'il a été rempli du Saint-Esprit, dans Actes 2, verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le don du Saint-Esprit n'est pas une récompense pour avoir bien fait, n'est pas une récompense parce qu'on a agi de telle ou de telle manière, mais c'est un don qui nous est donné pour nous rendre capables de bien faire. Pour nous rendre capables de bien faire. C'est un don, mais c'est aussi une promesse. Celle de, et on le voit dans les écrits de l'Ancien Testament, celle de Joël, chapitre 2, verset 28, où il nous est dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Et cette promesse même a été reprise par Jésus lui-même lorsque il va dire à ses disciples d'attendre. Il leur dira « Mais voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. » Mais vous restez là, dans cette vie, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et on l'a lu dans Actes, chapitre 1er, verset 4, on l'a lu, Jésus le dira aussi, d'attendre ce que le Père a promis. C'est une promesse. Et je voudrais aussi dire, c'est un don, c'est une promesse, mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une expérience aussi différente de notre conversion. C'est deux choses qui sont complètement différentes. On va rentrer un petit peu dans le technique, parce qu'il y a des choses, c'est vrai, qui nous dépassent. C'est difficilement explicable de comprendre pourquoi on dit que c'est une expérience différente, mais certaines personnes sont convaincues que lorsqu'elles sont nées de nouveau, lorsqu'elles se sont converties, elles ont reçu aussi le baptême dans le Saint-Esprit. Et certaines personnes pensent que c'est la même expérience. Mais l'on a reçu le baptême du Saint-Esprit au moment de notre conversion est une mauvaise interprétation. Est une mauvaise interprétation. Il faut faire la distinction entre l'action du Saint-Esprit qui va nous faire naître de nouveau, qui va nous régénérer, du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est différent de l'action régénératrice du Saint-Esprit qui se réalise au moment de notre conversion. Effectivement, chaque croyant, lorsqu'il donne sa vie au Seigneur, lorsqu'il se convertit, reçoit le Saint-Esprit. Reçoit le Saint-Esprit, mais cela ne veut pas dire qu'il est équipé, qu'il ait reçu la puissance d'en haut. C'est deux choses différentes, et Jésus le dira dans Actes 1, verset 5, Jésus dira à ses disciples, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et en disant cela, en parlant de ces deux baptêmes, on voit que Jésus parle de deux expériences différentes, de deux choses qui sont, je dirais, complémentaires. Lorsqu'il dit cela, Jésus s'adresse à un groupe d'hommes et de femmes, à ses disciples qui sont nés de nouveau, où l'œuvre de l'Esprit les a régénérés, où l'œuvre de l'Esprit les a fait naître de nouveau, où ils ont compris que Jésus était venu pour leur salut, où ils ont compris que Jésus était mort pour leur péché. Ils ont compris cela. Et c'est le Saint-Esprit qui, après avoir révélé... révéler tout cela, c'est le Saint-Esprit qui, après avoir convaincu l'homme et la femme de péché, va l'amener à la repentance, va l'amener à la conversion. Et sans l'action du Saint-Esprit, personne ne serait présent ici. Il y a besoin de cette action du Saint-Esprit dans notre vie qui va nous faire naître de nouveau. Et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Le Saint-Esprit va nous faire comprendre notre état de pécheur. Et parce qu'on va comprendre cela, on va changer de royaume. On va passer des royaumes des ténèbres au royaume de la lumière. On va devenir enfant de Dieu. À partir du moment où nous acceptons Christ dans notre vie, nous n'appartenons plus à nous-mêmes, ni au monde. Mais nous sommes devenus enfants de Dieu. L'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Romains, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et un peu plus loin, il dira, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et Jésus lui-même l'annonce quand il parle de cette promesse du Saint-Esprit, quand il dira, et le Saint-Esprit viendra dans le monde et il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La première œuvre, si je peux dire de cette manière, du Saint-Esprit en nous, c'est de nous amener à cette repentance. C'est de nous amener à cette conversion. Et l'action du Saint-Esprit va nous faire comprendre notre péché, va nous faire comprendre que si nous restons dans cette situation, eh bien nous connaîtrons une mort éternelle. Il va nous faire comprendre. Et recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, à notre conversion, n'est pas la même chose qu'être rempli du Saint-Esprit. Et pour illustrer ce que l'on vient de voir, dans le livre des Actes, nous pouvons voir qu'il y a vraiment cette différence. Il y a des exemples que l'on trouve. Acte 18, on voit où il est question d'un homme du nom d'Apollos qui était instruit dans les voies du Seigneur, qui enseignait ce que Jésus avait fait, qui prêchait l'Évangile. Il nous est dit au verset 25 concernant cet homme qu'il avait connu que la nouvelle naissance. Il nous est dit, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Et le baptême de Jean, c'était ce baptême de repentance. Et dans la suite, Paul va se rendre à Éphèse. Et au chapitre 19, il va voir les chrétiens d'Éphèse et il va leur poser cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et la suite de ce passage montre clairement que les chrétiens ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Ils ne comprenaient même pas ce que Paul leur disait. Ils n'avaient pas vécu cela, puisqu'ils vont dire, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et nous voyons bien ici que ces chrétiens avaient juste connu le baptême de la repentance, juste l'action du Saint-Esprit. qui va les faire naître de nouveau. Et la suite de Acte 19 nous dit que Paul va imposer les mains à ces chrétiens et ces chrétiens vont être remplis du Saint-Esprit. Ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Il y a d'autres exemples, mais on ne va pas s'arrêter dessus ce matin. Et nous pouvons donc dire que, et confirmer à partir de ce que la Bible dit, à partir du livre des Actes, qu'une personne peut être régénérée, c'est-à-dire née de nouveau, mais pas avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Juste, je tiens à dire, ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit qui vous sauvera. Ce n'est pas ça. Jésus dira, il dit, c'est qu'il faut que l'on croit. Celui qui placera sa foi sera sauvé. Le baptême dans le Saint-Esprit est un équipement qui va nous aider justement à être ses témoins. Alors, quel est le but du baptême dans le Saint-Esprit? Il y a un but simple, et Jésus l'a dit dans Actes 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Je me suis arrêté sur tout le contexte de Acte 1, Acte 2, et lorsque nous regardons le récit, ce n'est pas, un hasard que le Saint-Esprit ait été envoyé ce jour-là. Pourquoi je dis ça? Parce que il nous est dit dans Acte 2, le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, c'était cette fête où tout Israélite venait à Jérusalem, venait au temple pour se tenir devant Dieu et apporter les prémices de la récolte. C'était une fête qui était liée à la récolte. Ils venaient apporter leur offrande de ce premier fruit. Ils venaient à Jérusalem. Exode 34 nous dit « Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Trois fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël. » C'était une fête où ces hommes, ces femmes, comme je le disais, venaient et apportaient cette reconnaissance du fruit de leur travail à Dieu. Et la Pentecôte était la fête de la moisson. Et la moisson, c'est notre mission. La moisson, c'est notre mission. Le Saint-Esprit nous est donné en vue de cette mission, en vue d'être ses témoins. Alors, il y a eu, bien sûr, cette Pentecôte, le jour que vous connaissez tous, qui a été importante et qui a marqué l'histoire de l'Église. Acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire le jour des fêtes de la moisson, le jour où des centaines, peut-être même des milliers de personnes d'Israélites venaient ce jour-là apporter à Dieu leur reconnaissance. Ce jour-là, les disciples qui étaient présents furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. À ce moment, les disciples parlent en langue. Oui, mais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y avait des gens de toutes parts, il y avait des maîtres, il y avait des personnes de l'Asie et d'autres régions. Voilà, merci. Et il nous est dit que pendant cette fête, ils entendaient les disciples louer Dieu, exprimer des merveilles à Dieu dans leur langue. Voilà la mission. Voilà la mission de la Pentecôte. La Pentecôte a été donnée ce jour-là parce que ce jour-là, des hommes et des femmes avaient besoin d'entendre ce que le Seigneur voulait leur dire. La Pentecôte a été donnée, le Saint-Esprit a été donné le jour de la Pentecôte pour nous être utiles, pour être des témoins efficaces, des instruments entre les mains de Dieu. Et ces hommes et ces femmes, ces disciples qui étaient là dans cette chambre haute, qui étaient si craintifs, sont devenus méconnaissables en une fraction de seconde. Pierre, qui a renié Jésus à trois reprises, vous lisez ça dans les évangiles, quand on va dire « mais t'étais pas avec Jésus », lui va dire « mais je ne suis point de cela, je ne connais pas ». À l'issue de la Pentecôte, va prêcher l'évangile avec une force, avec une puissance. Il va prêcher l'évangile avec assurance. À partir de la Pentecôte, tous ces hommes, toutes ces femmes qui avaient plus ou moins d'hardiesse pour annoncer l'évangile vont être remplis du Saint-Esprit et ils vont annoncer la parole de Dieu avec assurance, avec force et avec puissance. En vue de quoi? En vue d'être des témoins. Nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir être ses témoins dans notre ville, dans notre église, dans nos familles et dans dans les endroits où le Seigneur nous a placés. Et être rempli du Saint-Esprit. Et des fois, on fait juste cette petite info en disant, mais c'est faut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, il faut parler en langue. Mais si on limite juste à ça, on passe aussi à côté de beaucoup de choses. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est donc pas parler en langue uniquement de temps en temps, mais c'est d'avoir un feu qui brûle en nous. C'est d'avoir un feu qui est là et qui nous anime de cette puissance et de pouvoir proclamer combien Dieu est grand. Et je crois que nous devrions demander chaque jour au Seigneur de lui dire « Mais remplis-nous, remplis-moi, renouvelle-moi de ton esprit. Viens m'inonder encore de commencer une journée en disant « Seigneur, sois là, viens faire de moi l'instrument que tu veux que je sois, mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton esprit. » L'apôtre Paul, je le disais tout à l'heure, va le recommander aux Éphésiens et il va leur dire « Soyez constamment remplis de l'esprit. » Et il y a ici l'action dans ce verset, une action qui exprime une continuité, une action qui exprime quelque chose qui va s'entretenir, qui va s'alimenter en tout temps. Alors que les ténèbres dans ce monde, je ne vous apprends rien, s'épaississent, alors qu'on va dans un monde qui part complètement à la dérive, qui s'assombrit de plus en plus, nous avons besoin d'être ces flambeaux. Nous avons besoin d'être ces lumières, nous avons besoin d'être de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir éclairer, pour pouvoir apporter un message d'espérance, pour pouvoir apporter un message de vie à tous ceux et celles qui se perdent. Amen. Amen. Nous avons besoin d'être remplis plus que jamais du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous pousse et nous poussera à vivre une vie de témoin. Il y a dans la parole de Dieu un serviteur de Dieu, un jeune serviteur de Dieu qui avait reçu par l'imposition des mains un don. Cet homme, c'est Timothée. Timothée était le pasteur de l'église d'Éphèse et il était sous la tutelle, si je peux dire de cette manière, de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, dans ses épîtres, va l'encourager. L'apôtre Paul va lui dire « Mais néglige pas le don qui est en toi ». On ne sait pas de quel don était ce don que Timothée avait reçu. On ne sait pas si c'était par rapport au charisme, si c'était à la prédication, mais il ne fallait pas qu'il néglige ce don. Et Paul va l'encourager, et Paul, voyant peut-être même dans sa deuxième épître à Timothée, voyant que le temps passe, peut-être que Timothée voilà, est toujours un peu, timide, Paul va l'encourager, et il va lui rappeler, il va lui dire, mais c'est pourquoi je t'exhorte, ranime le feu, ranime la flamme du don de Dieu. On va rentrer dans cette période d'été, avec les barbecues, et faites cette expérience, enfin bon, prenez du charbon qui est au milieu du feu, bon, vous le prenez avec une pince, hein. Sinon vous allez vraiment... Vous prenez et vous l'enlevez de ce foyer. Ce charbon, va s'éteindre petit à petit. Il va fumer, mais il va s'éteindre. Et si nous voulons être vraiment remplis, nous avons besoin de revenir au centre. Nous avons besoin de revenir au centre, de se replacer sous la présence de Dieu et de faire cette même prière que l'apôtre Paul pouvait faire à Timothée. Mais ranime ce don. Dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Dire Seigneur, je veux que tu me remplisses de ton esprit. Je veux être renouvelé, pas pour moi, mais pour les autres, pour mon église, pour te louer, mais aussi pour les gens de l'extérieur. Nous avons besoin. Alors, comment pouvons-nous recevoir le vivre et le revivre? Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas réservé uniquement à un groupe d'élite, n'est pas réservé uniquement aux chrétiens qui ont X années d'expérience, qui marchent avec le Seigneur depuis 10, 15, 20 ans, n'est pas réservé aux pasteurs, n'est pas réservé à ceux qui sont sur l'estrade, mais le Saint-Esprit, il est pour tout le monde. La Bible démontre que dans Acte 2, à la Pentecôte, alors que tous les disciples sont présents en train de prier, il nous est dit tous ont été remplis. Ils étaient 120. Et les 120 ont été remplis. Ceux qui venaient peut-être de se convertir, ceux qui avaient été au contact de Jésus,
qui avaient vu l'œuvre de Christ sur terre, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et je voudrais dire à quelqu'un que chaque enfant de Dieu, chacun d'entre nous a besoin de cette puissance. Et Jésus-Christ nous recommandera justement aussi de recevoir cette puissance. Le Seigneur considère même que c'est quelque chose d'essentiel à chaque disciple, à chaque enfant de Dieu. Chacun d'entre nous, nous devons et nous avons la possibilité de recevoir aussitôt que possible cette puissance. Jésus lui-même le dira dans Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans mon esprit en moi, sans cette vie qui coule, sans cette vie de l'esprit, vous ne pourrez rien faire. Vous ne serez inutile. » Cette promesse est pour, elle est pour vous, elle est pour moi. Et il suffit d'avoir ce désir de la saisir. Il suffit d'être là et de dire, mais je veux recevoir. La semaine dernière, on était au congrès Écho. Et il y a un jeune, et je ne citerai pas son nom, à l'issue d'une soirée, nous a rendu un peu témoignage de ce qui s'est passé. Et il nous disait, mais... Alors qu'on était là, il y a eu un temps d'appel et vraiment, ça a été le sommet de ces moments. Il y a eu une visitation du zénith dans lequel on était. Le Seigneur nous a tous touchés. Et ce jeune nous disait, mais j'étais là et j'avais l'impression de passer à côté. J'avais l'impression de passer à côté de ces moments. Et ce jeune, il a eu ce verset qui était là, de le psaume 13, qui dit « Mais jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu » Et alors qu'il a pensé à ça, il a été rempli, il a été visité. Et nous devons être dans cette attitude aussi de recevoir. Nous devons être dans cette attitude de dire de « Seigneur, mais remplis-moi », c'est quelque chose que nous devons saisir. Souvent, des fois, nous, on attend comme ça. Mais ce n'est pas ça. Et même, je n'ai pas regardé, mais je crois que le mot « recevoir » ici, c'est « lambano ». Je ne sais plus, mais ce mot-là, ce verbe-là en grec, c'est recevoir pas dans le sens d'attendre, mais c'est dans le sens de saisir, c'est dans le sens de vouloir. Et nous devons être dans cette attitude. Pour recevoir cette promesse, et je vais bientôt terminer, je dirais que c'est qu'il faut que nous soyons dans une attitude d'obéissance. L'apôtre Pierre dira dans Actes 5, verset 32, « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. » Obéir au Seigneur, c'est marcher selon ses principes, c'est marcher selon sa volonté, c'est marcher selon la parole de Dieu. Il faut que notre vie puisse être en harmonie avec ce que les Écritures disent. Parce que si nous vivons dans le désobéissement, si nous vivons... Non, c'est pas français ce que je viens de dire. Vous m'avez compris. Vous savez retenir ce qui est déconfé. Voilà, vous m'avez compris. Si on vit dans ce rejet, eh bien, le Seigneur ne pourra pas nous remplir. Nous avons besoin d'être au contact de la parole de Dieu, mais en plus d'obéir. L'apôtre Pierre dira le jour de la Pentecôte aux Juifs qui étaient présents de se repentir et de croire. Et peut-être quelqu'un ce matin peut se dire, mais moi ça fait des mois, des semaines, des années que je prie et il n'y a rien qui se passe. Je prie pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et j'ai rien. Oui, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans ta vie. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu dois abandonner au Seigneur et que tu dois dire, mais c'est vrai, je ne reçois pas parce qu'il y a telle ou telle situation qui me font qu'aujourd'hui, je ne peux pas recevoir. Nous avons besoin d'obéir. Nous devons être dans cette attitude d'obéissance, mais aussi nous devons être dans cette attitude de prière et d'attente. Les disciples, au moment où ils ont quitté Jésus et au moment où ils ont été remplis du Saint-Esprit, il s'est passé 10 jours. Et à vrai dire, pendant tout ce temps, nous, on a la parole de Dieu, on sait ce qui s'est passé, mais les disciples ont dû se poser certainement beaucoup de questions en se disant, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur nous a promis un revêtement de puissance, mais ils ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre. mais ils sont restés dans cette attitude de prière et d'attente. Ils sont restés et ils ont prié. Et parce qu'ils ont prié et ils étaient dans ce désir de recevoir, il nous est dit qu'après, ils ont tous persévéré et le Seigneur les a remplis. Mon frère, ma sœur, toi qui demandes, persévère. Toi qui demandes le baptême dans le Saint-Esprit, peut-être depuis des années. Toi qui demandes d'être renouvelé, mais persévère dans la prière. Ce n'est pas parce qu'un tel est baptisé et que toi tu ne l'es pas baptisé que le Seigneur ne veut pas te baptiser. Mais prends, persévère, même si ça tarde, le Seigneur lui-même le dira, ne demandez, vous recevrez. L'apôtre Jacques dira dans son épître que lorsqu'on demande quelque chose, il faut le demander avec foi et sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Nous devons rester dans cette attitude, et tu dois rester dans cette attitude de prière et d'attente. Et je termine en disant que nous devons aussi être dans une attitude de foi et de confiance. Lorsque les disciples sont... Jésus est parti, Jésus a été enlevé. Le texte nous dit qu'ils sont tous allés à la chambre haute. Ils auraient pu se disperser, ils auraient pu oublier et dire « Ah, le Seigneur, il nous a dit qu'on devait aller en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils avaient, cru dans cette promesse et ils avaient respecté ce que le Seigneur leur avait dit et ils étaient là et ils ont attendu, ils ont prié. Et acte 2 nous montre que tous les disciples, non seulement ils ont cru, mais en plus d'avoir cru, ils étaient dans cette attitude de louange. Et parce qu'ils étaient dans tout cela, le Seigneur les a visités. Le Seigneur les a visités. Je termine en disant... Luc nous dit dans son évangile, le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Alors je ne sais pas si on a l'habitude de faire comme ça, mais peut-être qu'on pourrait prendre un temps après. Je ne sais pas si on peut peut-être aux musiciens de revenir, de prendre un temps et poser cette question, mais puisque le Saint-Esprit se met à notre portée, puisque le Saint-Esprit se met à ta portée, pourquoi attendre? Pourquoi ne pas prier? Et être dans cette attitude en disant « Seigneur, mais remplis-moi. Seigneur, renouvelle-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je me rends compte que même je me suis peut-être un peu refroidi. Je me suis éloigné de ce centre. Je me suis éloigné de ta personne. Et je ressens au fond de moi comme cette terre qui est sèche. Mais j'ai besoin d'être rempli tout à nouveau. » Amen. Amen. On va prier. Après quoi, je laisserai la place. Seigneur, on veut te remercier parce que Seigneur, c'est vrai que tu parles au travers de ta parole et tu nous montres, Seigneur, combien sans toi nous ne pouvons rien faire, combien nous avons besoin, Seigneur, de l'action de ton esprit dans nos vies. Seigneur, c'est vrai, c'est pas le Saint-Esprit qui nous sauve, mais c'est le Saint-Esprit qui nous aidera à être ses témoins. Seigneur, nous voulons tous être ces lumières dans ce monde. Nous voulons tous, Seigneur, que ces lampes que nous sommes brillent. Mais pour qu'elles puissent briller, nous avons besoin de l'huile. Nous avons besoin de cette onction. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors, Père éternel, je te demande de venir nous visiter. Nous sommes là dans cette attente. Nous sommes là dans ce désir de vouloir être renouvelés. Père, remplis ce lieu de ta présence. Père, viens nous visiter. Père, que ce lieu soit visité par ton esprit. Et peut-être quelqu'un ce matin qui est là et qui s'est éloigné de toi. Quelqu'un peut-être qui vit encore dans une situation de péché. Mais Seigneur, qu'il se tourne vers toi, qu'il l'abandonne et que tu le remplisses aussi. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Merci encore, Père. Amen.
Gloire au Seigneur. Alléluia. On bénit le Seigneur. Amen.